bonjour à chacun. Comme il a été fait mention dans la prière, nous avons à cœur de parler de la vie de Jonathan. Pour ce faire, nous allons avoir deux chapitres, ou deux portions de chapitres devant nous. La première, dans 1 Samuel 13, et au verset 1. Saül était âgé de quelques années lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans sur Israël. Et Saül se choisit d'Israël 3 000 hommes. Il y en avait 2 000 avec Saül à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1 000 étaient avec Jonathan à Guiba de Benjamin. Et il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Et Jonathan frappa le poste des Philistins qui étaient à Guéba, et les Philistins l'apprirent. Et Saül sonna de la trompette partout le pays, disant, « Que les Hébreux l'entendent !» Et tout Israël ouït dire, « Saül a frappé le poste des Philistins, et aussi Israël est détesté par les Philistins. » Et le peuple se rassembla auprès de Saül à Gilgal. Et les Philistins s'assemblèrent pour faire la guerre à Israël, 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et un peuple nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ils montèrent et campèrent à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Jusqu'ici pour ce chapitre. Ensuite, dans 1 Samuel 14 et au verset 1. Et il arriva qu'un jour Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et passons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. » Mais il n'en avertit pas son père. Et Saül se tenait à l'extrémité de Guiba sous un grenadier qui était à Migron. Et le peuple qui était avec lui était d'environ 600 hommes. Et Akija, fils d'Akitub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Eli, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Et le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fut allé. Et entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à passer vers le poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté. Et le nom de l'une était Botsets et le nom de l'autre Séné. L'une des dents se dressait à pic du côté du nord vis-à-vis de Michmash et l'autre du côté du midi vis-à-vis de Guéba. Et Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel opérera pour nous car rien n'empêche l'Éternel de sauver avec beaucoup ou avec peu de gens. » Et celui qui portait ses armes lui dit, « Fais tout ce qui est dans ton cœur, va où tu voudras, voici, je suis avec toi, selon ton cœur. » Et Jonathan dit, « Voici, nous allons passer vers ces hommes et nous nous montrerons à eux. S'ils nous disent ainsi, tenez-vous là jusqu'à ce que nous nous vous joignions, alors nous nous tiendrons à notre place et nous ne monterons pas vers eux. Et s'ils disent ainsi, montez vers nous, alors nous monterons, car l'Éternel les aura livrés en notre main. » Et ce sera pour nous le signe. Et ils se montrèrent les deux au poste des Philistins. Et les Philistins dirent, « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste répondirent à Jonathan et à celui qui portait ses armes et dirent, « Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. » Et Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi car l'Éternel les a livrés en la main d'Israël. » Et Jonathan monta avec ses mains et ses pieds et celui qui portait ses armes après lui. Et ils tombèrent devant Jonathan et celui qui portait ses armes les tuait après lui. Et ce premier coup que frappèrent Jonathan et celui qui portait ses armes mit par terre 20 d'hommes sur la moitié environ du sillon d'un arpent de terre. Et l'épouvante fut dans le camp, dans la campagne et parmi tout le peuple. Le poste et les ravageurs, eux aussi, furent saisis d'épouvante. Et le pays trembla, et ce fut une frayeur de Dieu. Et les sentinelles de Saül, qui étaient à Guiba de Benjamin, regardèrent, et voici la multitude s'écouler et s'en aller, et ils s'entretuaient. Et Saül dit au peuple qui était avec lui, « Faites donc l'appel, et voyez qui s'en est allé d'avec nous. » Et ils firent l'appel, et voici Jonathan n'y était pas, ni celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Akija, « Fais approcher l'arche de Dieu, car l'arche de Dieu était en ce jour-là avec les fils d'Israël. » Il arriva que, pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte qui était dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et Saül dit au sacrificateur, « Retire ta main. » Et Saül et tout le peuple et avec lui furent assemblés à grands cris et vinrent à la bataille. Et voici, l'épée de chacun était contre l'autre. Ce fut une confusion terrible. Il y avait comme auparavant des Hébreux parmi les Philistins, lesquels étaient montés avec eux dans le camp de tout alentour, et eux aussi se tournèrent pour être avec Israël qui était avec Saül et Jonathan. Et tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm entendirent que les Philistins fuyaient et ils s'attachèrent, eux aussi, à leur poursuite dans la bataille. Et l'Éternel sauva Israël en ce jour-là. Et la bataille s'étendit au-delà de Beth-Aven. Et les hommes d'Israël furent accablés ce jour-là. Or Saül avait adjuré le peuple disant « Maudit soit l'homme qui mangera du pain jusqu'au soir et jusqu'à ce que je me sois vengé de mes ennemis. » Et entre tout le peuple, nul ne goûta de pain. Et tout le peuple du pays vint dans une forêt, et il y avait du miel sur le dessus des champs. Et le peuple entra dans la forêt, et voici du miel qui coulait, mais nul ne porta sa main à sa bouche, car le peuple avait peur du serment. Et Jonathan n'avait pas entendu lorsque son père avait fait jurer le peuple, et il étendit le bout du bâton qu'il y avait à la main, et le trempa dans un rayon de miel, et ramena sa main à sa bouche, et ses yeux furent éclaircis. Et quelqu'un du peuple répondit et dit, « Ton père a fait expressément jurer, le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui mangera du pain aujourd'hui. » Et le peuple était fatigué. Et Jonathan dit, « Mon père a troublé le pays. Voyez donc comme mes yeux ont été éclaircis, parce que j'ai goûté un peu de ce miel. » Puis c'était si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin de ses ennemis qu'il a trouvé. Maintenant, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Ils frappèrent ce jour-là les Philistins depuis Michmash jusqu'à Ajalon. Et le peuple fut très fatigué. Et le peuple se jeta sur le butin et y prirent du menu et du gros bétail et des veaux et les égorgèrent sur le sol. Et le peuple les mangeait avec le sang. Et on le rapporta à Saül en disant, « Voici, le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Et il dit, « Vous avez agi infidèlement. Roulez à présent vers moi une grande pierre. » Et Saül dit, « Dispersez-vous parmi le peuple et dites-leur, amenez-moi chacun son bœuf et chacun son mouton, et égorgez-les ici et mangez. Et ne pêchez pas contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Et cette nuit-là, tout le peuple amena chacun son bœuf à la main et les égorgèrent là. Et Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Saül dit, « Descendons de nuit après les Philistins, et pillons-les jusqu'à la lumière du matin, et n'en laissons pas un homme de reste. » Et ils dirent, « Fais tout ce qui est bon à tes yeux. » Et le sacrificateur dit, « Approchons-nous ici de Dieu. » Et Saül interrogea Dieu, « Descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu en la main d'Israël ?» Et il ne lui répondit pas ce jour-là. Et Saül dit, « Approchez ici, vous tous les principaux du peuple, et sachez et voyez comment ce péché est arrivé aujourd'hui. Car l'Éternel qui a sauvé Israël est vivant, que si c'était par Jonathan mon fils, il mourra certainement. » Et personne de tout le peuple ne lui répondit. Et il dit à tout Israël, « Voyez, soyez d'un côté, et moi et Jonathan mon fils, nous serons de l'autre côté. » Et le peuple dit à Saül, « Fais ce qui est bon à tes yeux. » Et Saül dit à l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Donne un sort parfait. » Et Jonathan et Saül furent pris, et le peuple échappa. Et Saül dit, « Jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. » Et Jonathan fut pris. Et Saül dit à Jonathan, « Déclare-moi ce que tu as fait. » Et Jonathan le lui déclara et dit, « Je n'ai fait que goûter un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Et voici, je meurs. » Et Saül dit, « Que Dieu me fasse ainsi et ainsi y ajoute si tu ne meurs certainement, Jonathan. » Et le peuple dit à Saül, « Jonathan qui a opéré cette grande délivrance en Israël mourra-t-il? Qu'ainsi n'advienne. L'Éternel est vivant s'il tombe à terre un des cheveux de sa tête, car il a opéré avec Dieu aujourd'hui. » Et le peuple délivra Jonathan, et il ne mourut pas. Et Saül remonta de la poursuite des Philistins, et les Philistins s'en allèrent en leur lieu. Jusque-là.
Peut-être simplement quelques mots pour remettre un peu le contexte dans lequel se déroule ce long récit qu'on vient de lire. Je pense en particulier aux enfants, aux plus jeunes qui sont là, pour comprendre de quoi il s'agit. Et peut-être d'abord aussi dire simplement un mot sur le choix de ce sujet de la vie de Jonathan. Il nous a semblé que c'était un sujet qui pouvait parler un peu à notre cœur à tous. On voit Jonathan dans sa vie de foi personnelle, on va voir Jonathan dans sa relation avec David, qui nous parle de la relation avec le Seigneur Jésus que nous avons. On va voir Jonathan qui a des choix à faire aussi. On a tous des choix à faire dans nos vies. Et il nous a semblé que c'était une vie qui pouvait nous parler de notre vie de foi, de nos combats, de notre communion avec le Seigneur, des sujets vraiment, on peut dire, fondamentaux de la vie chrétienne. Et peut-être aussi quelqu'un auquel on peut un peu s'identifier assez facilement pour les enfants, pour les plus jeunes. Le contexte dans lequel nous sommes, Saül est le premier roi du peuple d'Israël. Pendant longtemps, je ne vais pas refaire du tout l'histoire, mais pendant longtemps, ça a été des juges qui avaient été suscités par Dieu, mais qui n'étaient pas des rois, qui étaient des juges que Dieu, des hommes, que Dieu donnait à un moment donné à son peuple pour le conduire, mais qui n'avaient pas ce caractère de roi. Et à un moment donné, le peuple a dit, on en a assez. On en a assez de ne pas être comme les autres. On voudrait être comme les autres peuples qui nous entourent. Ils ont tous des rois. On est les seuls à ne pas avoir de roi. Et c'était ce que Dieu voulait. Dieu voulait que ne voulait pas que son peuple ressemble aux autres. Mais à un moment donné, le peuple en a eu assez. A dit, nous aussi, on veut notre roi. On veut un roi. Eh bien, Dieu a dit, bien écoutez, puisque vous voulez, eh bien, je vais vous donner ce que vous demandez. Ce n'est pas la pensée que j'avais pour vous, mais je vais vous donner un roi. Un roi qui ressemble peut-être à ce que vous avez envie, qui va ressembler à votre demande. Et Dieu va donner ce roi, Saül, de la tribu de Benjamin, un homme grand, un homme fort, un homme qui impressionne, un homme courageux et qui ressemble exactement à ce que le peuple attendait. Et Saül règne sur Israël. Mais il faut aussi dire, c'est un temps, on ne voit pas la Saül qui domine sur le pays, ce n'est pas un règne qui ressemble à celui de David, un mot plus tard en tout cas, et encore moins à celui de Salomon. On comprend tout de suite qu'il y a des grands problèmes à ce moment-là, puisqu'on voit les Philistins qui sont cet ennemi de l'intérieur, ces tribus qui avaient été laissées dans le peuple, au milieu du peuple, et qui étaient toujours en opposition, en guerre, on le voit déjà dans le livre des Juges, en guerre contre le peuple de Dieu, qui sont là, et qui à ce moment-là, il y a toujours un jeu, c'est pas le bon terme, mais dans la parole, dans ces récits des Juges, et dans cette partie-là en particulier de la parole de Dieu, il y a des moments où c'est le peuple de Dieu, on peut dire Dieu donne des délivrances, Dieu donne des victoires à son peuple qui domine, qui va remporter des grandes victoires sur les Philistins, et puis des moments d'épreuve, des moments de jugement pour le peuple aussi, dans lesquels on peut dire les Philistins reprennent l'ascendant, reprennent le dessus, et on voit toujours un peu ces épisodes-là. Et on est vraiment au cœur de ces événements-là, exactement au milieu de ces événements-là. Ça veut dire que Saül est le roi, mais il n'est pas vraiment le roi qui domine sur tout le pays. On voit que c'est vraiment un temps particulièrement sombre pour le peuple, dans lequel le peuple est obligé de se cacher. Les Philistins sont plus forts qu'eux. Alors c'est peut-être des épisodes un petit peu de guérilla, des périodes dans lesquelles les choses sont un peu plus tranquilles, et puis des périodes dans lesquelles il y a des incursions, il y a des batailles, il y a un petit peu des allées-venues. On ne sait pas exactement chronologiquement parfois comment les choses, sur quelle durée de temps les choses se passent. Mais en tout cas, c'est un moment donné où le peuple de Dieu est plutôt dans la faiblesse, dans la difficulté. Et il y a ces Philistins qui sont là, qui sont forts. On verrait même à un moment donné, je crois qu'on n'a pas lu ce passage, mais pour assurer leur domination, ils ont confisqué tout ce qui pouvait servir à aiguiser les épées, les armes, et ils laissent juste de quoi cultiver la terre, et il faut que les Hébreux aillent chez les Philistins. Ça montre qu'en fait, ils ne sont pas en permanence en guerre. Il y a bien des relations à certains moments, des épisodes en tout cas dans lesquels ils ne sont pas en lutte ouverte, mais on voit bien que les Philistins dominent, parce qu'il n'y a que les Philistins qui ont des outils pour aiguiser les armes. Et alors, les Hébreux viennent les voir pour pouvoir aiguiser le soc, la charrue, la serpe, ce qui est utile pour l'agriculture, pour pouvoir cultiver, mais surtout pas pour pouvoir se battre contre eux. Ça montre bien à quel point il y avait uniquement Saül et Jonathan qui avaient une épée. Voilà pour donner simplement ce contexte dans lequel nous sommes. Et Jonathan est le fils de Saül, le fils aîné. Saül a eu, je crois, six enfants, je crois. Et donc quatre fils, et Jonathan est le fils aîné. Donc il faut comprendre Saül le roi, Jonathan le prince héritier, le fils aîné du roi, grand guerrier, on le voit particulièrement dans les passages qu'on a lus aujourd'hui, et celui qui est appelé, très certainement, selon la logique, à régner après Saül, à prendre la suite de Saül. Voilà pour donner peut-être aux enfants le contexte dans lequel, on veut dire, commencent ces récits que nous avons lus.
Ce que nous venons d'entendre, on ne peut pas ne pas penser à ce qui nous arrive aujourd'hui, alors que nous savons très bien que le Seigneur Jésus est à la porte. Nous pouvons constater que l'ennemi nous attaque dans tous les domaines, à tous les niveaux, et il nous faut vraiment imiter la foi de ce serviteur Jonathan. C'est un précieux encouragement qui nous est donné. C'est sûr que son histoire est poignante, parce que nous connaissons sa fin, mais Dieu a voulu écrire un tel récit pour notre enrichissement spirituel, et combien il est important qu'aujourd'hui, pouvons le dire et le redire, nos cœurs à l'unisson s'attachent au Seigneur Jésus. Parce que l'ennemi rôde autour de nous, il cherche qui il pourra dévorer, et il ne nous faut pas lui prêter le flanc en aucune manière, et notre seule ressource, notre seule sécurité, notre seule force, c'est le Seigneur Jésus. Et nos enfants, nos jeunes, ils sont attaqués comme nous. Les plus jeunes comme les plus âgés, nous sommes attaqués par l'adversaire. Mais s'il rôde autour de nous, qui avons-nous dans notre cœur chacun? Celui qui l'a vaincu, notre Seigneur Jésus-Christ, le vainqueur de Golgotha. Christ est la force de ma vie, il est mon secours, il est ma sécurité, il est ma joie. À moi de lui faire confiance, imitons le début de Jonathan, parce que c'est tout à fait remarquable.
Un petit peu aussi en montrant dans quoi Jonathan va grandir. le peuple d'Israël, on vient de l'entendre, a délaissé, refusé d'être régné par l'Éternel, et il choisit ce roi. Mais il y avait quelqu'un qui était le représentant de Dieu là, et qui donnait la parole de Dieu au peuple d'Israël. Si vous venez quelques versets en arrière de ce chapitre 13, il y a deux versets que dans ma Bible je les ai soulignés. À la fin du verset 20, il est dit, c'est Samuel qui dit au peuple, « Ne craignez pas, vous avez fait tout ce mal, seulement ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. » Et ne vous détournez point, car ce serait vous en aller après des choses de néant, qui ne profitent pas et ne délivrent pas. Et un peu plus loin, fin du verset 23, non, le verset 23, « Quant à moi aussi, loin de moi que je pêche contre l'Éternel, que je cesse de prier pour vous, mais je vous enseignerai le bon et le droit chemin seulement, craignez l'Éternel et servez-le en vérité de tout votre cœur. » Les amis, nous avons pu faire des faux pas qui nous ont amenés à la fin de ce temps de la grâce et avec lequel on est confronté avec des attaques très fortes de l'ennemi. Nous avons quand même au ciel quelqu'un qui intercède pour nous. Comme Samuel, là, il est en train de faire un travail de, entre guillemets, de délivrance pour chacun d'entre nous. Il nous accompagne dans le chemin, dans les batailles, pour vaincre l'ennemi. Et si vous regardez dans ce que nous venons de lire au chapitre 13, cherche le passage où il montre que, justement, c'est le 14, pardon. Le 14, justement, il dit que il y avait ces deux rochers, et alors Jonathan dit que l'Éternel peut les délivrer. Exactement, oui. Et Jonathan, verset 6, et Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel opérera pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver, avec beaucoup, avec peu de gens. Donc, pour nous, ce n'est pas l'important de sortir victorieux. L'objectif, ce n'est pas ça. C'est être comme Jonathan, au service du Seigneur, et se tenir prêt, juste pour ce que le Seigneur voudra bien faire de nous. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a devant. On ne sait pas quel sera le pas prochain que nous aurons à faire. Mais si nous sommes disposés, comme Jonathan, à marcher par la force que le Seigneur donne, et aussi avec lui, on aura la victoire d'une manière ou d'une autre. Ce ne sera pas la nôtre, ce sera la victoire de l'Éternel.
Si le sujet est Jonathan, on peut guère parler de Jonathan sans parler de Saül. Parce qu'il y a un contraste, une opposition voulue par l'Esprit de Dieu entre l'homme selon la chair, Saül, un homme religieux, les deux, surtout dans la deuxième portion que nous avons lue, un homme religieux qui met des règlements, et puis l'homme de foi, l'homme qui dépend pas de règles religieuses, mais un homme qui est conduit, un croyant qui est conduit par l'Esprit de Dieu. On ne peut pas parler de Jonathan tout seul. Et la première portion que nous avons lue met déjà ce contraste d'une manière extraordinaire. Vous avez d'abord un Saül, bon, il n'a pas régné que 2 ans, bien sûr, c'est dit 2 ans. Il a régné 40 ans. D'ailleurs, pour les jeunes, ceux que ça intéresse, c'est une digression. Les 3 premiers rois, c'est-à-dire tant que la royauté a été unifiée, donc Saül, David, Salomon, vous avez 40, 40 et 40. Saül a régné 40 ans. Alors, pourquoi 2 ici et pas 40? Eh bien, on peut dire qu'il a donné toutes les apparences de la fidélité pendant 2 ans, c'est tout. Il y a eu 38 ans après qui ont été développement de ce qu'est l'homme selon la chair. D'ailleurs, ce que ça intéresse, c'est quelque chose qui montre la cohérence de la parole de Dieu, je le dis pour les jeunes. Le 38, vous le trouvez ailleurs ? Réfléchissez, les jeunes. Le 38, vous le trouvez ailleurs ? Je vous donne un élément. Évangile de Jean. Épître 5. Vous avez un paralysé qui est là depuis 38 ans. Et on peut dire que Saül, pendant 38 ans, il a été comme boiteux. D'ailleurs, le 38, vous le trouvez aussi dans l'histoire d'Israël, si vous prenez Deutéronome. Excusez-moi, je suis en pleine digression. Mais si vous prenez Deutéronome, quand même citer le passage exactement, chapitre 2, verset 14, « Et les jours que nous avons marché depuis Kadesh Barnéa jusqu'à ce que nous ayons passé le torrent de Zéred ont été 38 ans. 38 ans d'errance, 38 ans d'infidélité, et par rapport à cet homme-là, un homme religieux, attention, il invoque le nom de l'Éternel, même quand il est en pleine désobéissance. Vous avez un homme qui ne sonne pas de la trompette, mais qui va attaquer le poste des Philistins. Ensuite, Saül, non seulement va sonner de la trompette, mais il va s'attribuer le bénéfice de la victoire. Il y a celui qui travaille dans l'ombre, ayant affaire à son Seigneur. Et il y a celui qui donne une apparence extérieur. Il peut séduire certains, mais qui trompe pas l'Éternel. Excusez-moi d'insister, mais ça me semble trop important. C'est une pensée qu'on trouve dans toute l'Écriture. L'opposition entre la chair, qu'elle soit religieuse, et l'esprit. On a dit que l'histoire, que le sujet de la parole, c'était l'histoire de 2 hommes, seulement 2. Le premier homme, en contraste avec le second homme. Le premier Adam, en contraste avec le dernier Adam. Et ces vérités qu'on trouve dans toute l'Écriture, je ne vais pas développer parce qu'il faudrait beaucoup de temps, mais c'est un sujet d'une extrême importance. Eh bien, est mise en scène là, très particulièrement dans cette opposition entre Saül, l'homme dans la chair, premier homme. Et le second homme, qui est Christ, dont Jonathan, en tout cas dans ce qu'on a lu, est une si belle image.
On peut peut-être aussi ajouter un troisième corps, les Philistins. Les Philistins, c'est l'image des puissances spirituelles de méchanceté qui peuvent agir et qui agissent. Or, devant ces puissances spirituelles de méchanceté, il y a deux manières de répondre. Celle de Saül par la chair, et c'est la défaite assurée. Celle de l'esprit par la foi, et c'est la victoire assurée.
Jonathan nous apparaît comme quelqu'un de sympathique qui combat. On n'aime pas forcément combattre, mais on est obligé comme chrétien de combattre. On voit dans l'épître de Jude, page 195, verset 3, « Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une foi enseigner au saint. Combattre pour la foi qui a été enseignée au saint. Et puis, dans notre vie courante, comme chrétien, on a des combats tous les jours dans un monde où les ténèbres s'épaississent et où nous devons montrer la lumière. Pas suivre le courant de ce monde, mais par la force que le Seigneur fournit, vaincre. Et Jonathan nous apparaît quelqu'un de sympathique qui s'appuie sur l'Éternel. Pour nous, c'est le Seigneur Jésus. Et nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos forces parce que nous serons vite vaincus. Quelque chose que l'on doit apprendre quand on est jeune, peut-être. On pense parfois qu'on a assez de force pour arriver à vaincre. On n'a pas de force en nous. La force est dans le Seigneur Jésus. C'est lui qui va nous aider jour après jour. Alors que le Seigneur nous aide à pouvoir retirer des instructions. On voit dans les Éphésiens, on l'a déjà dit là tout à l'heure, Éphésiens 6, que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, comme du temps de Jonathan, qui a lutté comme des Philistins. Nous, on est en lutte contre des puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Mais notre force, elle est quand on se revêt de l'armure complète de Dieu, prendre le temps de lire la parole de Dieu, prendre le temps de prier, prendre le temps d'être dans la communion avec le Seigneur. On trouve des forces pour ne pas suivre le courant de ce monde. Peut-être que chacun de nous prenne le temps de bien lire Éphésiens 6, versets 10 à 18.
Excusez-moi de rester toujours dans la même pensée par rapport au chapitre 14, donc de notre lecture. Vous avez un Jonathan. Il y avait quelqu'un qui est son porteur d'armes, pas quelqu'un de saillant. Vous connaissez son nom à son porteur d'armes? Même pas. Mais voilà quelqu'un qui combat avec Jonathan, combat de l'Éternel. Alors bien sûr, si Jonathan est l'exemple du Seigneur, on comprend très bien que le jeune homme est une image d'un croyant qui est avec avec le Seigneur dans les combats qu'il mène. On peut peut-être faire aussi une autre application. Ce jeune homme peut être aussi un compagnon de combat, tel que nous en avons besoin aussi dans les rassemblements. Paul en parle, Epaphras en particulier dans les Colossiens, d'autres encore, qui ont combattu ensemble avec lui. On voit en effet que ce jeune homme est prêt à affronter tous les dangers. Et quand Jonathan a à cœur d'aller comme puissance spirituelle dont nous allons, que représentent les Philistins, le jeune homme est là avec lui, disponible. Discute pas. Dis pas, écoute, on ferait mieux. Non. Et en même temps, on voit que Jonathan n'en avertit pas son père. Il n'y a pas de communion entre la chair et l'esprit. Saül est dans cette position bien établie. Il est question de la souveraine sacrificature bien établie, où il est cité quelqu'un qui s'appelle privé de gloire, Ichabod. Mais tout ça, ça fonctionne très très bien. Mais sans l'Éternel. Et là, il y a une très grande leçon pour nous. Un peu comme Malachi, tout peut être ok, tout très bien, superbement scripturaire. Il manque juste l'exercice dont le Seigneur ne nous dispense jamais. On peut être complètement en règle par rapport à la doctrine, collective en particulier. Supportera pas que quelqu'un dise quelque chose de travers, supportera pas. Et ces choses peuvent être comme une coquille vide, sans les exercices auxquels le Seigneur nous invite. Il n'en parla pas à son père. Mais tout est en place, sa souveraine sacrificature. Vous savez, on a quelque chose de la même chose, on ne va pas prendre le passage dans Luc 3. Luc 3, le monde politique est en place. Tout est là. La souveraine sacrificature, elle est là en place. Et la parole vint à qui? Auquel de ces gens autorisés vient-elle la parole de Dieu au début de Luc 3? La parole de Dieu vint à Jean au désert. Quelqu'un qui n'avait pas de titre, pas quelqu'un qui était reconnu par le système, mais la parole de Dieu s'adresse à lui. Et nous avons quelque chose de cela, n'est-ce pas? L'exercice de Jonathan pour aller contre ses puissances spirituelles. Et en même temps, un système, nous avons ça dans le premier paragraphe, qui est complètement en place. Il semble rassurer tout le monde. Bien-aimé du Seigneur, le réveil est loin. Est-ce que nous aurions gardé la forme de la piété en en reniant la puissance?
Au milieu d'un temps difficile, Dieu se réserve des hommes, des femmes qui marchent par la foi. C'était un temps pas évident. On voit au verset 6, les hommes étaient dans la détresse. Et entourés d'ennemis, ils étaient beaucoup plus nombreux. Hein, les Philistins, ils étaient 30 000 chars, 6 000 cavaliers, un peuple nombreux comme le sable sur le bord de la mer. De l'autre côté, il y avait 2000 hommes pour Saül, 1000 pour Jonathan. Il n'y avait pas d'armes, ou les armes étaient inaptes pour le combat. Il y avait le roi qui était là, qui s'attribue la victoire de Jonathan aux autres. Quel orgueil, quel homme charnel qui est là. Et pourtant, il est dit, c'est Jonathan qui frappa le poste des Philistins. Lui, il agit par la foi. Il n'a pas calculé. Il avait à cœur la gloire de Dieu. Il avait à cœur le bien du peuple. Et Dieu s'est servi de lui de manière remarquable. Jonathan frappa le poste des Philistins. Et on voit que les Philistins la prirent et elle est mal à l'aise, n'est-ce pas? Et pareil au chapitre 14, c'est Jonathan qui dit à son jeune homme qui portait ses armes, « Viens, passons jusqu'au poste des Philistins. » Il n'en parle pas à son père parce qu'il savait bien que son père n'était pas dans la pensée de Dieu. Même le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fut allé. C'est une affaire entre lui et Dieu. La foi honore Dieu, vraiment. Et confiance en Dieu. Et Jonathan l'a fait. Et on voit Jonathan qui dit au jeune homme, à ses armes, peut-être que l'Éternel opérera pour nous. On voit quelle humilité, quelle dépendance. Il savait que Dieu pouvait l'aider puisqu'il dit, c'est un verset remarquable, chers jeunes, attachez-vous à ce verset, l'Éternel, rien n'empêche l'Éternel de sauver avec beaucoup ou avec peu de gens. Rien n'empêche l'Éternel de sauver. Il compte sur Dieu. Il compte pas sur le nombre. Il compte pas sur les armes. Il compte sur l'Éternel. Voilà l'activité de la foi. Je lirai juste ce verset dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, au verset 5, au milieu. Il y a pourtant tout empressement, 2 Pierre 1, verset 5 au milieu. Joignez à votre foi la vertu. Dire que c'est bien ce que Jonathan a fait. Il avait foi en Dieu et il a eu cette vertu d'aller de l'avant. Il a frappé les Philistins au verset 3 du chapitre 3. Il monte au chapitre 14 et Dieu est avec lui. Peut-être que l'Éternel viendra. Mais l'Éternel les aura livrés entre notre main. Sera pour nous le signe, il s'attend à Dieu. Aimer que nous puissions nous attendre aussi au Seigneur. Il est celui qui veut être avec nous. Si nous dépendons de lui, comme Jonathan, si nous joignons notre foi, la vertu, l'énergie, pour aller de l'avant quand il le faut, alors oui, Dieu sera avec nous, dans l'humilité, tout cela. Et il y a une victoire qui est remportée. Et cela nous encourage, bien-aimés, à vivre vraiment de foi, à la foi, avec la vertu que Dieu veut nous donner pour accomplir service, action peut-être, seul contre tous, pour faire la volonté de Dieu. Il y a juste encore un exemple en Philippiens, c'est Paul qui le dit, un peu comme celui qui accompagnait Jonathan, il est dit en Philippiens 2, au propos de d'Épaphrodite, qui a été malade, et il est dit au verset 30, il a été proche de la mort, ayant exposé sa vie. Oui, la foi s'engage jusqu'à exposer sa vie pour le Seigneur, que nous puissions avoir cette énergie de la foi, cette foi entière en celui qui, lui, remporte la victoire.
Effectivement, on voit, Saül occupe beaucoup de versets dans ces chapitres, mais on voit beaucoup gesticuler. Mais comme on l'a dit, voilà, il représente la religion, les efforts de l'homme. Et on voit à quel point on le sent en décalage complet avec ce qu'était la pensée de Dieu. Même déjà dans ces quelques versets du chapitre 13, c'est toujours frappant, je trouve, de voir Saül qui dit, quand il sonne de la trompette, que les Hébreux l'entendent. Qui parle des Hébreux?
Dans le chapitre 14, les soldats philistins, ils disent, voyez ces Hébreux qui sortent vers nous. Les Hébreux, c'était pour désigner, on peut dire, une autre tribu étrangère. Pour eux, ils nommaient ça les Hébreux. Les Philistins, c'était normal qu'ils parlent des Hébreux comme ça. Par contre, que le roi d'Israël parle de son peuple en disant les Hébreux, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était un nom qui, on va dire, c'est comme s'il n'avait pas conscience, il ne réalisait pas la relation tout à fait spéciale qu'il y avait entre Dieu et son peuple. C'était pas un peuple idolâtre comme les autres autour, c'était un peuple à part que Dieu avait choisi pour lui. Et je trouve que c'est vraiment le fait que Saül parle de son peuple en disant les Hébreux montre vraiment à quel point il n'est pas dans la pensée, dans la pensée de Dieu et à quel point Jonathan devait avoir, on peut dire, peu de communion ou pas de communion possible avec son père dans ses exercices de foi par rapport aux Philistins. Et donc, les deux combats, comme Marc nous l'a dit, le combat contre le poste ici dans le chapitre 13 et puis, on va dire, le grand combat qu'il va y avoir au chapitre 14, dans les deux fois, Saül, il est sous un grenadier, il attend, il est passif, il fait rien. Et dans les deux fois, c'est Jonathan qui va prendre l'initiative. Et dans ce chapitre 13, il est parlé d'un poste. En fait, il semble que poste peut aussi se traduire par colonne. Il n'est pas parlé là de soldats avec lesquels il y a eu une bataille, il remportait une victoire contre des soldats. Il semble que c'était probablement plutôt une colonne, un monument, quelque chose qui devait symboliser la domination des Philistins dans le pays. Probablement plutôt cela. Et finalement, Jonathan, à un moment donné, d'ailleurs, où il n'y avait pas d'armes, où il y avait encore une fois, il n'y avait que lui et son père qui avaient une arme, il est allé pour abattre ce poste. Et les Philistins ont entendu parler. Il semble que ce n'était pas une victoire militaire contre une troupe de Philistins, mais plutôt quelque chose de symbolique où Jonathan a décidé d'abattre quelque chose qui représentait une colonne des Philistins au milieu du peuple de Dieu. Et les Philistins ont entendu ça, ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé ce que ça représentait. Ça veut dire qu'ils sont en train de se révolter, ils refusent notre puissance. Et c'est ça qui va déclencher les hostilités, cette armée qui va venir pour remettre les Hébreux, on va dire, au pas. Après cette première victoire. Et il me semble que dans cette décision de Jonathan, il y a quelque chose qui nous fait un peu penser, vous savez, à Gédéon, hein, avec l'idole qu'il y a dans la maison de son père. Avant de pouvoir aller délivrer le peuple, il faut d'abord avoir une victoire, on peut dire presque symbolique, c'est pas le bon terme, mais avant d'aller se battre contre les troupes, les armées ennemies, il faut d'abord prendre une position, montrer qui on est et qui on n'est pas. Et à ce moment-là, Jonathan, en abattant cette colonne philistine dans le pays, eh bien, va dire non, on n'accepte pas cette domination des Philistins. Nous, on est le peuple de Dieu. Et par la foi, eh bien, on refuse cette domination. Et il me semble que ce poste, cette colonne des Philistins, où là, Jonathan va dire qu'on ne peut pas laisser ça. Il faut dire quelque chose, il faut témoigner. Ça peut nous parler à nous. Peut-être que des fois dans nos vies, on va rencontrer comme une colonne des Philistins dans nos vies. Dans des discussions, dans des moments, voilà, je repense à cette histoire l'été dernier, par exemple, de cette cérémonie dont on a beaucoup parlé après dans les entreprises, peut-être avec vos collègues et tout. La cérémonie, je pense à l'ouverture des Jeux Olympiques, où c'était une occasion de prendre position, de des fois les gens se moquaient en disant est-ce qu'on s'est moqué de la scène ou non, puis des fois on peut s'être retrouvé dans des discussions comme ça. Peut-être que comme chrétien, parfois, dans ces cas-là, bien, Dieu demande que on prenne position, on dise qui on est. On dit qu'on n'est pas d'accord avec ça. On peut se retrouver avec des collègues, avec des copains qui vont parler d'occultisme. Est-ce que tu t'intéresses à ces choses et qui vont parler de ces choses-là? On est là comme en étant, tout à coup, il y a comme un poste ennemi qui est là. On parle de quelque chose avec lequel nous, on sait qu'on ne peut pas avoir communion avec ces choses-là. On ne peut pas s'associer à ça. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et peut-être des fois, voilà, on passe à côté. Je ne sais pas si dans votre vie, vous êtes déjà passé à côté d'un poste philistin, d'une colonne. Vous l'avez regardé. Vous n'avez rien dit. Vous avez continué. Moi, ça m'est arrivé souvent. Puis parfois, il faut savoir dire quelque chose. Peut-être notre Dieu attend qu'on dise quelque chose. Qu'on témoigne de ce qu'on croit. Qu'on dise cette chose-là n'est pas selon Dieu. C'est pas... Et qu'on puisse avoir cet acte de foi de Jonathan qui n'a pas laissé debout cette colonne de fils. Alors notre combat n'est pas contre le sang et la chair, hein, nous dit la parole. On ne va pas se battre contre des gens. Mais Dieu, notre Dieu l'attend, je crois, pour nous aujourd'hui, qu'on prenne position. Qu'on sache dire ce qu'on croit, ce que dit la parole de Dieu. Qu'on ait ce courage. C'est pas très facile, hein. Qu'est-ce qu'il est dit là? Les Philistins, on l'a lu tout à l'heure. Je cherche le thème. Voilà. Ils entendent dire, et aussi, ils entendent dire, donc Saül a frappé le poste des Philistins, c'est pas Saül, c'est Jonathan. Et aussi, Israël est détesté par les Philistins. La conséquence, elle est difficile, hein.
c'est pas toujours, on va pas avoir que des félicitations parfois, peut-être, si on a ce courage-là. Israël est détesté par les Philistins. Mais ça a été le premier pas de la foi qui a entraîné la délivrance ensuite complète du peuple. On va voir que par la suite, on va dire que c'est une première étape, cette première étape de foi de juste abattre une colonne qui témoignait de la puissance des Philistins a été le début de ce qui a permis ensuite une grande délivrance, et Dieu a opéré une grande délivrance par le moyen de Jonathan plus tard. Alors voilà, chacun peut se poser cette question dans ma vie. Est-ce que des fois il y a des colonnes comme ça qui sont là? Et qu'est-ce que Dieu attend? Est-ce que notre Dieu attend pas qu'on prenne, qu'on ait ce courage de prendre position pour lui quand on est dans ces situations-là?
Et le récit du chapitre 14, du début du chapitre 14, il donne, comme on l'a dit tout à l'heure, un bel exemple de foi, de la foi de Jonathan, une foi profonde, comme on l'a dit, une foi qui donne la certitude que Dieu, il peut tout, que Dieu, ce qui à vue humaine peut paraître totalement impossible, est possible pour Dieu, et puis aussi, une foi qui donne du courage, parce qu'il en fallait du courage pour Jonathan et son porteur d'armes, son écuyer, on pourrait dire, son porteur d'armes, le jeune homme qui portait ses armes, pour partir comme ça, à deux, face à une position des Philistins, qui en plus, on comprend en lisant le récit, la topographie du site, il y avait ces deux pitons rocheux, on pourrait dire, avec ce défilé au milieu, et puis les Philistins, ils étaient positionnés en hauteur. En stratégie militaire, depuis toujours, on sait qu'il faut tenir les points hauts. Les Philistins s'étaient positionnés en hauteur, et il y avait donc un contexte extrêmement défavorable, et donc Jonathan et son équipe ont ce courage que seule la foi peut donner. Puis en même temps, alors on pourrait se dire, mais Jonathan, il est un peu inconscient de partir comme ça. Et il semble que ce qui se dégage de ce récit, c'est que Jonathan ne part pas non plus, on pourrait dire, bille en tête, droit devant, puisque c'est la foi que Dieu peut donner la délivrance. Alors je pars, je me pose pas de questions, je pars droit devant. On voit aussi, c'est Jonathan, une forme de sagesse. Alors pas une sagesse humaine. La sagesse humaine, ça aurait été d'élaborer une stratégie, une tactique, de dire puisqu'ils sont auteurs, il faut peut-être les contourner, il faut peut-être les prendre par surprise, peut-être se dissimuler. Pas du tout, mais une forme de sagesse. Et chez Jonathan, il réfléchit, on voit qu'il pose cette alternative avec ce signe attendu, de dire ben, si les Philistins disent cela, alors je m'arrêterai, je m'entêterai pas en quelque sorte, et puis s'ils disent cela, alors nous irons. Alors on voit, il prend ce temps de réfléchir, et puis encore au pied, il monte d'ailleurs, il le fait complètement à découvert. Et on peut imaginer que les Philistins, on voit ces moqueries, on dit bon, voilà, aucun danger, peut-être des déserteurs qui viennent nous rejoindre, peut-être des informations qui vont nous communiquer. Mais Jonathan a pris ce temps. Justement, ce qui me semble ressortir de ce récit, c'est que à la fois une grande foi qui dépasse complètement, cette foi qui donne tout courage, elle est à cette bataille. Elle est nécessaire, et en même temps, une forme de sagesse qui vient de chercher la direction de Dieu et ne pas partir comme ça sans se poser de questions. Non, le dire parce que des fois, on pourrait avoir ce sentiment, en tant que chrétien, mais si on a la foi, alors il faut foncer. Et oui, d'une certaine façon, pas tergiverser dans les combats, certainement. Et en même temps, l'exemple de Jonathan montre que c'est pas inconciliable de manifester une grande foi et aussi cette forme de sagesse qui vient d'en haut, de prendre le temps de réfléchir, d'attendre que aussi Dieu ouvre clairement le chemin, et c'est ce cas aussi que semble-t-il que montre ce récit, une grande foi, une grande dépendance vis-à-vis de Dieu, et une progression assez réfléchie, même quand assez calme finalement, quand il escalade, on peut dire sous le feu ennemi, si c'était avec des armes à feu, en tout cas sous très vulnérable dans la montée de ce rocher, de cette ce point haut, eh bien voilà, Jonathan le fait avec calme, avec détermination, mais avec cette sagesse qui lui a été donnée de faire les choses non pas de façon précipitée, désordonnée, mais avec sous la direction de l'Esprit et de l'Éternel.
Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, je voudrais aussi revenir sur une chose que Marc a déjà dite un peu,
Et ce petit mot, peut-être. On dira, mais mon pauvre Jonathan, tu manques de foi. Mais pas du tout. Ce peut-être montre cette humilité de Jonathan et ce sentiment que nous devrions partager avec lui que Dieu ne nous doit jamais rien. Il est fidèle, il combat les combats de l'Éternel, Dieu ne lui doit rien. Vous avez 50 ans de vie avec le Seigneur, de communion avec le Seigneur, Dieu ne vous doit absolument rien. Et nous avons un exemple de cela aussi dans le chapitre 14 de Josué. C'est un autre qui manque pas plus de foi que Jonathan, il s'appelle Caleb. J'ai appris que les Anakim y sont, peut-être l'Éternel sera avec moi. Que nous puissions être aussi dans un tel état d'esprit. Il y a un autre qui a dit aussi peut-être. Ézéchias, imaginant la scène. Vous êtes enfermé dans Jérusalem, vous apprenez que Sankérib, le roi d'Assyrie, est en train de mettre à sac toutes les villes autour de vous. Vous êtes bientôt plus que dans Jérusalem qui est épargné. Peut-être l'Éternel entendra-t-il les paroles. On trouve ça trois fois dans la parole, on le trouve dans Ésaïe en particulier, dans la partie centrale d'Ésaïe, vous savez, qui partage Ésaïe dans le chapitre 37. Il n'y a point de force pour enfanter, peut-être l'Éternel ton Dieu entendra-t-il les paroles du Rabshaké. Quelquefois un petit peu, j'irais presque mal à l'aise par rapport à quelqu'un qui dit « Le Seigneur m'a montré, j'ai vu devant le Seigneur comme s'il y avait une espèce de révélation, un éblouissement. » Ce n'est pas l'état d'esprit de Jonathan du tout. Bien sûr, il désire se laisser conduire par l'Éternel. Mais il faut que nous nous souvenions avec lui que nous sommes toujours dominés par l'exercice. Nous ne le dominerons jamais. Vous avez une décision importante à prendre. Vous êtes dominé par l'exercice. C'est pas vous qui dominez l'exercice. C'est pas vous qui gérez. Peut-être l'Éternel sera avec moi. Il y a un autre homme, il dit pas peut-être, comme Caleb, comme Jonathan, comme Ézéchias. Mais il dit quelque chose de tellement approchant. Et dans le livre d'Esther, c'est Mardoché. Qui sait, si ce n'est pas pour cela que tu es devenu reine, qui sait, dira, mais on est tellement rapide à faire tirer des conclusions en mettant des raisons de cause à effet. Ben c'est à cause de ça. Et on se croit très spirituel avec ces choses, sans se rendre compte que nous sommes dominés par les choses et que notre compréhension est très relative de ce qui peut se passer, la manière dont Dieu mène les choses. Qui sait ? Peut-être. Quelle humilité que le Seigneur nous donne, en effet, à la fois de ressembler à Jonathan dans son exercice pour aller attaquer ceux qui sont en haut alors qu'il est en bas, et en même temps, cette humilité de savoir que Dieu ne nous devra jamais rien.
Juste un petit mot à propos de cet homme qui porte les armes, qui est compagnon de Jonathan dans ce récit. On a ce verset qui est particulièrement beau à considérer, verset 7, celui qui portait ses armes lui dit, fais tout ce qui est dans ton cœur, va où tu voudras, voici je suis avec toi selon ton cœur. C'est une très belle image, là aussi, si nous considérons Jonathan comme une image du Seigneur Jésus, et de quelqu'un qui a à cœur de marcher avec le Seigneur, comment on peut avoir cette confiance et cette assurance? C'est en connaissant le cœur du Seigneur Jésus. Si nous connaissons le cœur du Seigneur Jésus, nous savons où est-ce qu'il veut nous conduire, eh bien nous savons qu'il le fera d'une manière sûre. Pourtant, pour Jonathan, comme pour celui qui est avec lui, on a dit tout à l'heure qu'ils sont particulièrement vulnérables. Il y a une expression qui le dit, ils montent avec leurs mains et leurs pieds. Autrement dit, sans défense personnelle. Ils sont à la merci, exposés aux attaques des Philistins qui sont là, au-dessus d'eux. Mais ce qui est très beau, c'est que cet homme qui est à côté avec Jonathan, il connaît le cœur de Jonathan. Et si nous connaissons un peu le cœur du Seigneur Jésus, par la parole de Dieu, parce que nous entendons ce qu'elle nous dit au sujet du Seigneur Jésus, on peut penser à ce verset de Jean 10, lorsque le Seigneur parle de ses brebis, « Mes brebis écoutent ma voix, et elles me suivent. » Et puis le Seigneur dit aussi, « Moi je les connais. » Mais c'est dans les deux sens. La brebis connaît la voix de son Seigneur, et elle le suit. Et de la même manière ici, on voit cet homme qui suit Jonathan, je veux dire sans crainte apparente, parce qu'il connaît le cœur de Jonathan. Bien-aimé, que cela puisse être aussi notre part, que nous apprenions à connaître davantage le cœur du Seigneur Jésus, et cela nous donnera une pleine confiance en lui. Je vais juste revenir un instant sur ce que notre frère tout à l'heure disait aussi à propos du témoignage qu'on peut rendre dans un monde obscur, dans un monde de ténèbres, dans ce verset de Jean 8, verset 12, où Jésus leur parla encore, disant, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » On connaît le Seigneur Jésus aussi comme celui qui est la lumière. Et il est cette lumière et nous invite à le suivre. « Celui qui me suit, eh bien, il ne marchera pas dans les ténèbres. » Il y aura cette séparation, on pourrait dire presque automatique, entre ce qui est de la lumière et ce qui est des ténèbres. On sait qu'il y a une incompatibilité fondamentale entre la lumière et les ténèbres. Celui qui suit le Seigneur Jésus, lui qui est lumière, eh bien, il ne marchera pas dans les ténèbres. Voilà comment on peut être séparé du monde qui nous entoure, ce monde plongé de plus en plus, on le voit d'une manière tellement flagrante et tellement évidente de nos jours, marcher de plus en plus dans les ténèbres, eh bien, nous avons cette responsabilité aussi de refléter cette lumière du Seigneur Jésus. Je crois que ces deux aspects qui sont placés devant nous aussi, à la fois suivre un Seigneur qui est la lumière du monde, et suivre un Seigneur dont on connaît le cœur, et donc à qui on peut faire une pleine confiance.